Bonjour à vous tous. C'est très bon d'être ici en ce jour particulier. En y pensant, je revois certains visages que je connais à travers le monde, au Canada, à Aguatuna, à Terre-Neuve, ou en Afrique du Sud, à Port-Élisabeth, à Manille, aux Philippines, et bien sûr, dans tout le pays ici. Je pense à certains visages que je reconnais, et je les vois dans mon esprit. Nous sommes aujourd'hui capables de nous rassembler de cette façon. Nous aimerions bien sûr nous rassembler comme auparavant, mais au moins nous pouvons le faire par l'électronique en ce moment. Vous savez, c'est incroyable à quelle vitesse notre monde peut changer et a changé. Quelle différence 3 semaines peuvent faire. Quand on y pense, cela fait seulement 3 semaines, peut-être 4 pour certaines parties du monde, peut-être un peu plus vite que cela, mais pour la plupart en Amérique du Nord et en Europe, tout a changé en 3 semaines environ. Et pendant ce temps, de grandes villes ont été complètement fermées. Manille a été fermée, Londres est assez bien bouclée, New York l'est aussi. Des millions de personnes sont obligées de se réfugier chez elles. Et c'est ce qui se passe ici même en Caroline du Nord, à l'exception de certaines tâches essentielles à accomplir. Des gens tombent malades partout dans le monde. Et beaucoup meurent. Et ce ne sont pas les chiffres énormes que nous avons vus lors de la grippe espagnole en 1918. Mais ce n'est pas encore fini. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit d'un virus très dangereux pour ceux qui en sont atteints. Beaucoup d'entre eux souffrent aussi de maladies sous-jacentes. J'écoutais le gouverneur Cuomo à la radio lorsque je suis arrivé au studio. Il expliquait que la durée pendant laquelle les gens sont sous respirateur est d'environ 14 à 21 jours, même 22 jours. C'est une longue période de temps. C'est beaucoup plus que la normale. C'est donc un vilain microbe pour certaines personnes. Heureusement, si nous en sommes atteints, la plupart d'entre nous s'en sortiront. Et nos jeunes, nos enfants, ont toutes les chances de s'en sortir. C'est une merveilleuse nouvelle qui nous permet, en tant que parents, de ne pas avoir à nous inquiéter que les petits soient victimes de cette maladie mortelle. S'ils l'attrapent, ils pourront bien souvent s'en remettre. En fait, ils ne le remarqueront probablement même pas beaucoup. Nous en sommes très reconnaissants. Je vais vous lire quelques rapports du monde entier. Ce qui se passe dans différents endroits. Par exemple, en Australie, M. Rob Tyler, notre directeur régional, a déclaré « L'Australie vient de fermer ses frontières, nationales et internationales, et la plupart des magasins ferment maintenant, sauf pour les produits et services essentiels. L'industrie aérienne est en réelle difficulté et des dizaines de milliers de personnes perdent leur emploi car les entreprises ferment leurs portes, dont plusieurs pourraient ne plus jamais ouvrir. Le gouvernement dit aux gens de rester à la maison et de travailler si possible à domicile et de ne pas organiser de réunions ou d'activités de groupe, même avec des membres de leur famille qui ne vivent pas sous le même toit. Au Royaume-Uni, John Meakin a écrit ceci. Il est l'un de nos correspondants là-bas et un de nos ministres également. Il dit, le gouvernement britannique annonce aujourd'hui une réévaluation radicale et un revirement complet de son approche dans la lutte contre la pandémie. La répression est maintenant considérée comme la seule voie viable pour réduire au minimum les décès, qui devraient néanmoins être très élevés. Cela signifie donc un confinement maximal et un isolement social maximal. Je pense que la plupart d'entre vous sont probablement au courant, mais Boris Johnson, le premier ministre anglais, est lui-même affecté par le coronavirus. Il se porte bien pour autant que nous sachions. Poursuivant avec les commentaires de M. Meakin, et cela signifie que maintenant, comme l'œil de la tempête est attendu dans les 6 à 8 prochaines semaines, la salle des fêtes d'Achille est maintenant fermée jusqu'en août. C'est là que la petite congrégation de l'Église se réunit dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et il ajoute, « Nous ne pourrions donc pas y organiser un service religieux, même si nous le voulions. On doit s'attendre à ce que d'autres salles que nous utilisons fassent de même. Cette pandémie change la nature de la société et de l'économie mondiale sous nos yeux. Nous entrons dans un monde très différent, en pleine transformation. Cet événement est sans doute un catalyseur qui conduira à l'accomplissement de la prophétie. Ce n'est pas encore la fin. » Nous voulons nous assurer que tout le monde le comprenne. Nous n'en sommes pas encore rendus là, à la fin. Mais ce qui se passe aura des conséquences sur l'accomplissement de la prophétie. M. Simon Mutama, du Kenya, comme mentionné dans les annonces par M. McNair, souligne que tous les bureaux du gouvernement sont maintenant fermés. Et il ajoute que les Kenyans subissent un double coup dur, coronavirus et invasion de cricket. Un nouvel essaim de cricket a à nouveau envahi les frontières de la Somalie et du Kenya, qui ont détruit au moins 2400 tonnes métriques de cultures vivrières, selon les rapports de l'Agence agricole. Il s'agit donc d'une catastrophe majeure dans cette partie du monde. M. Christo Botta d'Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de le voir à son bureau il n'y a pas longtemps, en février dernier, fin février. Il écrit ceci. Le personnel du bureau sud-africain est intervenu alors que nous revenions des États-Unis après avoir été informé que nous serions soumis à une auto-quarantaine de 14 jours à la maison. Un certain nombre de nos hommes étaient rentrés chez eux après la conférence ministérielle avortée que nous allions avoir à Charlotte. Bien sûr, nous avons tenu le conseil des anciens comme prévu juste avant, mais nous avons dû annuler la conférence ministérielle générale alors que certains de nos ministres de l'étranger étaient déjà arrivés à Charlotte. De retour en Australie, aux Philippines et en Afrique du Sud, ils ont été mis en quarantaine pendant 14 jours. Les cas de coronavirus en Afrique du Sud sont maintenant près de 700. Le président de l'État, M. Cyril Ramaphosa, a déclaré un confinement national pour l'Afrique du Sud qui sera effectif pendant 21 jours à partir du 26 mars. Bill Long, dans le Michigan, ici aux États-Unis, a écrit ceci. Au début de cette semaine, le gouverneur du Michigan, Mme Whitmer, a émis une ordonnance de confinement à la maison pour tous les résidents jusqu'au 13 avril. Nous ne pourrons donc pas nous réunir en petits groupes de 10 personnes tant que l'ordre ne sera pas levé. Le sabbat passé, nous avons fait une expérience merveilleuse. Nos congrégations, dans divers endroits, ont pu être reliées par le moyen électronique que j'ai pu installer à partir de ma maison. Un homme a donné la prière d'ouverture à partir de chez lui. Malcolm Murray a donné la sermonnette depuis sa maison. J'ai donné le sermon depuis ma maison. Et un autre homme a donné la prière de clôture depuis un quatrième endroit. Puis j'ai ouvert la communication pour les frères. Des frères de l'État du Michigan et de l'Ohio ont pu se voir et discuter un moment. C'était très encourageant de voir tout le monde si excité. Plusieurs membres m'ont dit le lendemain combien ils étaient inspirés de pouvoir ainsi être reliés par lien direct. Donc, nous nous adaptons. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous nous assemblons d'une manière très différente de ce que nous faisions dans le passé. J'ai annoncé cette journée de jeûne d'aujourd'hui et de prière pour les membres de l'Église du Dieu vivant pour deux raisons. Tout d'abord, nous avons cette crise COVID-19. C'est une crise planétaire grave. Elle change notre monde, comme l'ont mentionné certains de ces rapports, mais aussi parce que la Pâque est tout juste devant nous. Avec tout ce qui se passe autour de nous, nous avons du mal à nous concentrer pour nous examiner nous-mêmes et nous demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi? » Nous ne sommes pas ici pour condamner les autres. Nous sommes ici pour nous regarder et dire « qu'est-ce que moi je dois changer? Comment le sacrifice de Jésus-Christ affecte-t-il ma vie? Et qu'est-ce que je fais en conséquence? » Commençons donc par le plus important des deux points, c'est-à-dire la Pâque. Il est facile de se laisser distraire, comme je l'ai dit, et de ne pas vraiment apprécier l'importance de ce jour qui est maintenant tout proche. Jean-Baptiste marchait avec deux de ses disciples et il a vu Jésus à une courte distance. Je vais lire cela dans le premier chapitre de Jean. C'est un passage très important quand on y pense. Rappelez-vous par quoi Marc commence son premier chapitre. Il n'y avait pas de chapitre à l'époque, mais il a ouvert le premier chapitre en disant ceci. « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'était un puissant message concernant le royaume de Dieu, de même que le besoin de nous repentir, de changer, de faire demi-tour et d'aller dans une autre direction. Dans le livre de Jean, nous voyons un autre point très important du tout début du ministère de Jésus. Jean-Baptiste a vu Jésus s'approcher. L'apôtre Jean écrit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Entre autres choses, la Pâque concerne le péché. Il s'agit du pardon des péchés et de la façon dont nous pouvons nous faire pardonner nos péchés. Mais vous savez, il ne pourrait pas y avoir de péché s'il n'y avait pas de loi. Car le péché, comme il est dit dans 1 Jean 3:4, le péché est la transgression de la loi. Nous vivons dans un monde qui est rempli de péchés. Le péché est présent partout, dans chaque pays. Il n'y a pas de pays qui soit sans péché. La violation de la loi de Dieu. Nous violons régulièrement la loi de Dieu individuellement et en tant que nation. Espérons que ce n'est pas le cas pour vous et moi, mais nous avons encore nos problèmes, bien sûr. Nous sommes encore en train d'éliminer le péché de nos vies, n'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens, le 5e chapitre, nous lisons concernant le sacrifice de Christ. 1 Corinthiens, 5e chapitre. Souvenez-vous que Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Que voulait-il dire par là? Est-ce que ça voulait dire, eh bien, il y a de beaux petits agneaux qui existent, devrions-nous prendre un agneau dans nos bras et le porter? Est-ce de cela qu'il parlait ou parlait-il de quelque chose de plus sérieux et de plus profond? Ici, dans 1 Corinthiens, le 5e chapitre, il est écrit au verset 7, « Faites disparaître le vieux levain. » Cela a été écrit à l'époque des jours des pains sans levain. Il dit de se débarrasser du levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Puis, s'adressant à l'Église de Corinthe, formée d'anciens païens, l'apôtre Paul ajoute la déclaration suivante. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Voici donc un commandement du Nouveau Testament aux païens. Célébrons donc la fête. En d'autres termes, le sacrifice du Christ est le point de départ, pourrait-on dire. Sans ce sacrifice, nous sommes condamnés à mort. Nous n'avons aucune chance. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de répondre à ce sacrifice en éliminant le levain de nos vies. Le levain symbolise le péché. Qu'il s'agisse d'un péché de vanité, d'orgueil ou autre, nous avons besoin d'être lavés. Nous devons être humbles et non pas enflés d'orgueil. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Célébrons la fête, non avec du vieux levain, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. » Ainsi, nous constatons que Jésus-Christ est notre Pâque et que nous avons la responsabilité de répondre à ce sacrifice en nous repentant de nos péchés, en mettant le péché hors de nos vies. Allez à Luc, le 22e chapitre. Au fait, je n'ai pas de coronavirus, j'ai simplement une petite allergie qui me pousse à tousser et à me faire dégager la gorge un peu. J'espère que personne ne se fait de soucis pour ça. Nous avons beaucoup de pollen ici à Charlotte. J'avais d'ailleurs ce petit problème avant même de partir pour mon dernier voyage en février. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Luc, 22e chapitre. Voyons un peu ce qui s'est passé la nuit où Jésus a été arrêté pour être finalement crucifié le lendemain. Dieu compte le temps du coucher du soleil au coucher du soleil le lendemain. Donc, la nuit précédant sa crucifixion, il a pris un repas avec ses disciples. Quel était ce repas? Lisons-le dans Luc 22, à partir du verset 7, où il est dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Il a dit, « Allez nous préparer la Pâque, c'est-à-dire le repas de la Pâque. » Ce repas qui a été introduit, initié en Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont mangé pour la première fois ce repas spécial. Ils ont tué un agneau, ils ont mis le sang de l'agneau sur les montants de la porte et sur le linteau de la porte. Ils ont mangé cet agneau. Ce soir-là, ils sont restés dans leur maison durant toute la nuit. L'ange de la mort est passé et tous ceux qui avaient le sang d'un agneau pour les couvrir ont été épargnés. Le premier-né dans leur maison serait épargné, mais chez tous ceux qui n'avaient pas le sang d'un agneau couvrant leur maison, les premiers-nés sont morts. Et ce pourrait même être à la fois le mari et la femme s'ils étaient des premiers-nés. Le premier-né de leurs enfants aussi. Et tous les premiers-nés de leurs animaux. Le Christ a dit, « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Verset 9, ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Luc 22, verset 12. « Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. » Matthieu, Marc et Luc utilisent régulièrement le terme « Pâque ». Jean utilise le mot « Pâque » dans un contexte un peu différent. Mais je ne veux pas entrer dans ce sujet pour le moment. Très clairement, Jésus a célébré la Pâque au début du 14e jour du premier mois du calendrier hébreu. Il l'a gardé ce jour-là, tout au long de ce jour, de cette année-là, depuis le coucher du soleil, jusqu'au moment où il a été mis dans la tombe, c'est-à-dire le jour de la Pâque. Il n'est pas mort n'importe quel jour de l'année, il est mort le jour de la Pâque. Ce que les enfants d'Israël ont fait ce jour-là en Égypte représentait ce qui allait arriver plus tard, la venue d'un agneau unique et spécial, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés des gens ou les péchés du monde entier. Mais comment le sacrifice d'un seul individu pourrait-il être suffisant pour nous tous? Je pourrais peut-être donner ma vie pour vous dans ce contexte. Je pourrais théoriquement donner ma vie pour une personne, mais ce serait tout si c'était possible. Alors, comment la vie d'un seul individu pourrait-elle compter pour celle de tous les humains? Dans le premier chapitre de Jean, au verset 18, il y a une déclaration très intéressante à ce sujet. Dans Jean 1, verset 18, il est dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » On y voit donc que Jésus est venu pour révéler Dieu, c'est-à-dire celui qui est le Père. Il a dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père n'a pas été vu à aucun moment par les humains. Le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » Dans le livre de l'Exode, au 24e chapitre, nous trouvons quelque chose qui, à première vue, semble contredire cette affirmation. Toutefois, ce n'est pas une contradiction comme nous allons le voir. Exode 24, à partir du verset 9, dit ceci. Moïse monta sur le mont Sinaï avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Or, il nous est dit dans le livre de Jean que personne n'a jamais vu Dieu. Et pourtant, il nous est dit ici qu'ils ont vu le Dieu d'Israël. Et il y avait sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Très intéressant. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Et pourtant, le Nouveau Testament dit clairement que personne n'a vu Dieu. Eh bien, nous savons qu'il y a deux membres qui forment la famille de Dieu, le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est la puissance qui découle de ces deux membres. Le premier chapitre de Colossiens, dans le Nouveau Testament, nous aide à comprendre que le Dieu de l'Ancien Testament était en fait celui qui est devenu plus tard Jésus-Christ. C'est là une vérité que très peu de gens comprennent vraiment. Beaucoup de théologiens le savent, mais ils ne transmettent pas vraiment cette vérité aux gens parce que cela a des implications. Cela a des implications concernant la loi de Dieu. Qui a ordonné les 10 commandements du haut du mont Sinaï? Qui était celui qui marchait avec les enfants d'Israël ou qui les protégeait à cette époque? Qui a créé Adam et Ève? Eh bien, Colossiens, le premier chapitre, verset 15, nous répond. Comme nous le verrons, il s'agit de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui est ce « lui » dont il est question ici? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier-né d'entre les morts. Alors, quand il est dit « il est le premier-né » au verset 15, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous l'avons clarifié ici. Il est le premier-né d'entre les morts. Et c'est lui qui a créé tout ce qui existe, de visible et d'invisible, qu'il s'agisse de trône, de domination, de principauté ou de pouvoir. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui les a créés. Et il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui le montrent très clairement, qui montrent très clairement que Jésus est celui qui a créé toutes choses. En fait, Dieu le Père l'a utilisé pour créer tout ce qui existe par la puissance de l'Esprit. Voyons ce que déclare aussi 1 Corinthiens chapitre 10. C'est une autre de ces Écritures qui le souligne. Ce n'est pas la seule. Cette déclaration est très claire. On se demande pourquoi les gens ne comprennent pas. Elle dit ceci. De plus, frères, je ne peux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Il y avait de l'eau autour d'eux, un nuage au-dessus d'eux et de l'eau des deux côtés. C'était une sorte de tombeau, comme les Égyptiens l'ont découvert peu après. Il est écrit qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Qui était ce rocher qui les suivait? Ce rocher était le Christ. Ainsi, nous voyons que Jésus était le Dieu de l'Ancien Testament. C'est lui qui a formé Adam et Ève, qui a soufflé dans leurs narines le souffle de vie. Sa vie est bien plus précieuse que toutes nos vies réunies. C'est ainsi qu'il a pu donner sa vie en échange pour toutes nos vies. Dans Philippiens 2, verset 3, il est dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Nous ne devons donc pas être égocentriques. Nous devons considérer les besoins des autres plus que nos propres besoins, comme il est dit, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous devons prendre soin des autres. Et j'espère qu'en cette période de crise, nous ne penserons pas seulement à nos propres familles. Si nous vivons dans un quartier où il y a une veuve ou une personne qui a besoin d'aide pendant cette période, j'espère que nous nous souviendrons de ces personnes. Peut-être que vous pourriez acheter de la nourriture pour eux et vous assurer de la désinfecter et tout ce qui s'y rapporte pour ne pas leur donner un virus. Mais j'espère que nous penserons à ceux qui nous entourent. Nous devrions prendre soin de nos voisins, pas seulement de nos familles, pas seulement de ceux qui ont la même compréhension que nous, mais prendre soin des autres autour de nous. Verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». C'est l'attitude du Christ de prendre soin des autres. Verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Verset 7, « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. » Au verset 7, il est écrit, « Mais il s'est dépouillé lui-même. » La marge indique ici que le mot original signifie « se démunir ». En d'autres termes, il s'est dessaisi. Il a renoncé à tout ce qu'il était, à tous ses attributs en tant que notre Créateur. Bien sûr, nous ne comprenons pas tout ce processus. En tout cas, je ne comprends pas tout ça. Mais il s'est démuni de tout ce qu'il avait pour être placé dans Marie par un processus étonnant, puis de grandir et devenir notre Sauveur. Sa vie avait plus de valeur que toutes nos vies réunies. Il est celui qui enlève les péchés du monde. Il a payé l'amende, la peine de mort pour vous et pour moi, et pour chaque être humain. Considérons maintenant ce qui est en jeu ici. Nous vivons dans un monde nihiliste. C'est un monde qui est livré au plaisir. La plupart des gens sont beaucoup plus intéressés par la question de savoir qui va jouer dans leur équipe favorite en fin de semaine, leur équipe de football ou de baseball ou autre. Ils sont plus intéressés par cela que par la raison pour laquelle ils existent, pour laquelle ils sont sur la terre. Il y a quelques semaines, M. Wallace Smith a présenté une émission télévisée intitulée « Quel est le sens de la vie? » Nous essayons de trouver moyen de faire parvenir la brochure « Votre ultime destinée » au plus grand nombre de personnes possible. Aujourd'hui, le nombre 666 intéresse les gens. Il s'intéresse à la bête de l'Apocalypse. Il s'intéresse à toutes sortes de choses prophétiques, bien sûr. Mais pour ce qui est de savoir pourquoi nous sommes ici, les gens ne semblent pas vraiment s'en soucier. Nous n'avons pas autant de commandes pour cette brochure que pour certaines brochures plus prophétiques. Pourquoi? Parce que les gens vivent toute leur vie sans même savoir pourquoi ils existent. C'est une chose étonnante. Pourquoi? Vous savez, nous vivons dans un monde qui croit fondamentalement que le but de la vie, c'est de multiplier les plaisirs au maximum et de limiter le plus possible la souffrance. Et pourtant, ce n'est pas ce qui est vraiment important dans la vie. Nous sommes ici pour une très courte période de temps. Même si nous vivons jusqu'à 70, 80, 90 ou 100 ans, c'est une très courte période de temps. C'est pourquoi il nous faut savoir pourquoi nous sommes ici. Parce que Dieu nous offre la vie éternelle pendant 1 milliard d'années au carré, puis au carré, et encore au carré 1 milliard de fois. Il nous offre quelque chose de bien plus grand que ce que nous avons dans ce monde physique présent. Mais en ce moment, parce que nous sommes physiques, nous pensons plus en termes de ici et de maintenant qu'autre chose. Suis-je à l'aise? Suis-je heureux? Est-ce que je fais des choses amusantes? Dans de nombreux cas, nous préférons faire les choses amusantes plutôt que les choses difficiles. Mais ce sont les choses difficiles qui nous apportent souvent les plus grandes récompenses. Le chapitre 8 de Romains nous donne un aperçu de ce qu'est cette récompense. Au verset 14, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Cette expression « fils de Dieu » se retrouve tout au long du Nouveau Testament, et c'est quelque chose qui est plus qu'une simple expression figurative. Vous vous rappelez, Saddam Hussein a dit un jour d'une bataille particulière qu'elle allait être la mère de toutes les batailles. Il a en fait utilisé une image, mais ici, c'est plus qu'une image ou qu'un symbole, c'est quelque chose de très réel. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption ou d'engendrement par lequel nous crions « Abba, Père, cher Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous savons ce qu'est un héritier. Ça veut dire héritier de quelque chose, héritier de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Nous allons nous joindre aux héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Oui, il y a de la souffrance dans cette vie, et il y a beaucoup de souffrance en ce moment. Il y a bien sûr une partie de la souffrance qui est physique, mais la plus grande partie est une souffrance mentale et émotive. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mes amis, si vous n'avez pas lu la brochure « Votre ultime destinée », contactez notre bureau pour en obtenir un exemplaire. Découvrez quel est le but de votre vie. C'est tellement important. Même ceux d'entre nous qui sont membres de l'Église du Dieu vivant, nous oublions parfois de quoi il s'agit. Nous sommes tellement pris par ce qui se passe aujourd'hui et par les divertissements de ce monde que nous oublions la vue d'ensemble. Il ne faut pas oublier la grande perspective. Heureusement, la Pâque nous y ramène aussi. Elle nous rappelle que celui qui nous a créés a dû mourir pour que vous et moi puissions vivre. Et pas seulement nous, mais pour que le monde entier ait la même possibilité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, nous trouvons des instructions concernant la Pâque. Il est dit, à partir du verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Notez qu'il n'est pas dit de le faire aussi souvent que vous le souhaitez, mais de le faire selon les Écritures, c'est-à-dire une fois par an. Selon les Écritures, en d'autres termes, chaque fois que cela se présente annuellement, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, de façon frivole, il décrivait ici comment dans l'église de Corinthe, certains se saoulaient le soir de la Pâque et que certains avaient beaucoup de nourriture tandis que d'autres avaient faim. Ils célébraient donc la Pâque d'une manière indigne, avec légèreté et d'une manière très frivole. Il ajoute que celui agissant ainsi sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Remarquez ce qu'il dit au verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parce qu'ils n'ont pas compris la signification totale de ce sacrifice. Nous savons maintenant que Jésus a versé son sang et que la vie de l'individu est dans le sang. Quand il a versé son sang, il a donné sa vie. De plus, avant d'être crucifié, il a aussi été horriblement torturé. Ils ont craché sur lui, ils l'ont frappé, ils l'ont battu. Il a subi le supplice du fouet qui lui a déchiré la chair. Dans 1 Pierre 2, verset 19, il est écrit. Il est écrit ceci. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, Jésus a vraiment souffert injustement. Et souvent, vous et moi, nous souffrons aussi injustement. Mais cela fait partie de notre vie. Nous devons y faire face, tout simplement. Cela fait partie de la vie et il faut l'accepter. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéri. Remarquez qu'il est dit que nous sommes morts au péché. Pour bien le comprendre, nous pouvons voir Romains chapitre 6, les 7 premiers versets. Il y est question du baptême et de la mise à mort du vieil homme. Nous n'avons pas le temps d'expliquer en détail, mais nous avons aussi la brochure sur le baptême qu'il serait bon de revoir en cette période spéciale de l'année. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, Ésaïe, chapitre 53, il y a une prophétie au sujet de Jésus qui devait venir, et de son sacrifice. Cela commence vraiment au 52e chapitre, en fait, et continue tout au long du 53e chapitre. Je vais lire simplement un petit peu ici pour gagner du temps. Il est dit au verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Dans la marge, on indique que le mot « souffrance » veut dire aussi « maladie ». Il a porté nos maladies et nos souffrances, et ce mot signifie littéralement « douleur ». Donc, l'expression littérale signifie « maladie et douleur ». Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ainsi, Jésus n'a pas seulement payé le prix de nos péchés, mais il a aussi pris sur lui les maladies et les douleurs dont nous souffrons et qui sont en réalité, dans de nombreux cas, le résultat du péché. Et quand nous considérons vraiment la maladie, nous voyons que la plupart du temps, elle est due au péché. Peut-être pas votre péché ou mon péché, mais un péché. Nous allons voir dans une minute à quel point c'est le résultat du péché. Jésus-Christ a pris sur lui toute cette douleur et toute cette souffrance pour que vous et moi puissions être pardonnés de nos péchés et que nous puissions aussi être guéris, que nous puissions aller vers lui. Nous avons une brochure sur le terme « Dieu guérit ». Dieu guérit-il de nos jours? Et elle explique tout ce processus. C'est important que nous comprenions, car lorsque les gens de Corinthe prenaient la Pâque à la légère de manière inconsidérée, il est dit « C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont infirmes et malades. » En d'autres termes, ils n'avaient pas la foi nécessaire pour être guéris. Ils ne croyaient pas que Dieu interviendrait pour eux. D'ailleurs, nous ne disons pas que nous ne devrions jamais aller chez un médecin. Dieu devrait, par contre, faire partie de notre recherche de guérison. Nous devrions aussi aller vers Dieu. Dans le chapitre 5 du livre de Luc, nous avons un aperçu de ce qu'est le jeûne. Nous voyons qu'il s'agit d'un moyen pour nous rapprocher de Dieu. Nous sommes bien sûr affaiblis lorsque nous jeûnons. Lorsque nous nous retrouvons sans nourriture et sans eau durant une période de 24 heures. Pas seulement en renonçant à la gomme à mâcher ou à autre chose de ce genre, comme le font certaines personnes durant un certain temps, mais en jeûnant réellement. Le véritable jeûne nous affaiblit, mais notre esprit finit par se dégager. Pour moi, cela prend une grande partie de la journée. Finalement, nos idées s'éclaircissent et nous pouvons vraiment supplier Dieu, comme nous ne pourrions pas le faire autrement. Ainsi, au chapitre 5 de Luc, verset 33, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. » Alors ils jeûneront à ces jours-là. En d'autres termes, en parlant de l'époux, Christ parlait de lui-même, car il était avec eux, au milieu d'eux. Il était proche d'eux, Dieu dans la chair, le Christ. Ils étaient proches de Dieu à ce moment-là, et ils n'avaient donc pas besoin de jeûner. Mais une fois qu'il leur serait enlevé, ils allaient devoir avoir besoin de jeûner pour se rapprocher de lui. C'est ce que nous faisons, nous nous humilions, nous nous approchons de Dieu. C'est un outil puissant que Dieu nous a donné pour apprendre et pour nous approcher de lui. Pour résumer le premier point que j'ai donné, le but du jeûne, donc, c'est de nous approcher de Dieu. La Pâque est à nos portes, et nous devons nous examiner pour voir si nous sommes dans la foi. Je me réfère à 2 Corinthiens 13, verset 5. Vous pouvez vérifier cela, 2 Corinthiens 13, verset 5. Chaque année, la Pâque est un rappel très sérieux de la vie, du but sérieux de notre vie. Notre Créateur Jésus-Christ a dû donner sa vie en échange de la nôtre. Et cela, pour nous donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle dans la famille de Dieu en tant que ses fils et ses filles. Notre objectif premier et principal doit donc être de nous humilier, de confesser nos péchés personnels et de supplier Dieu de nous donner, de nous voir comme lui nous voit et de nous aider à changer. Parlons maintenant un peu de la COVID-19. Il a été dit que ce qui arrive n'est causé par personne en particulier. Le président Trump l'a répété à plusieurs reprises, que ce qui se passe n'est pas la faute de personne. Nous pouvons certainement comprendre cette idée exprimée. D'ailleurs, la sermonnette mentionnait que nous ne sommes pas ici pour montrer du doigt qui que ce soit. Mais en même temps, nous devons comprendre quelle est la cause de cette affliction. À vrai dire, nous sommes tous fautifs dans cette affaire. Ce n'est la faute de personne en particulier, car nous sommes tous à blâmer, en réalité. Le chapitre 26 des Proverbes, au verset 1 et au verset 2, fait ressortir un principe dont je n'avais jamais entendu parler en grandissant lorsque j'étais jeune. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à apprendre les choses de l'Église que j'ai réussi à comprendre le principe de ce que nous appelons « relation cause à effet ». Remarquez le verset 1, il est dit ceci. « Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. » En d'autres termes, il y a certaines choses qui ne conviennent absolument pas à certaines personnes. Et un insensé ne devrait pas recevoir d'honneur. Puis au verset 2, il est dit ceci, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Y a-t-il une malédiction qui plane sur le monde aujourd'hui? Absolument. Il y a une grande malédiction qui s'abat sur notre monde. Nous avons ce coronavirus. Techniquement, c'est le virus qui cause le COVID-19. Ce coronavirus est là. C'est une malédiction. Bien sûr, c'est une malédiction économique aussi, mais plus encore, c'est une malédiction pour la santé et le bien-être des gens dans le monde entier. Il est dit ici, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Autrement dit, il n'y a pas d'effet sans cause. En examinant la cause, il ne s'agit pas de pointer du doigt les Chinois ou les Asiatiques, parce que nous sommes coupables des mêmes choses, ou du moins de choses similaires. En fait, dans certains cas, nous sommes coupables de péchés encore plus graves. Il nous faut découvrir ce qui a causé cela. Parce que si l'humanité ne se repent pas, de ce qui a causé cette calamité, alors cela va continuer à se produire. La revue Popular Science écrit au sujet du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui a frappé le monde en 2003-2004, et mentionne une citation du virologue Michael Lai, un nom à consonance orientale. Le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent du sud de la Chine n'est pas surprenant. Je continue la citation. « Cet homme croit que la coutume régionale consistant à capturer et à manger du gibier sauvage expose les gens aux virus animaux. » Remarquez que ce n'est pas seulement le SRAS, mais la plupart des virus de la grippe qui viennent de là. Et voici pourquoi. À cause des animaux que les gens de ces régions mangent, l'article poursuit en disant ceci. En théorie, le SRAS franchit la barrière entre l'animal sauvage et l'humain quand il acquiert la clé moléculaire pour pénétrer dans nos cellules. Pour ce faire, il doit d'abord se mêler aux virus humains qui sont présents dans d'autres espèces. Un porc, par exemple, peut servir de récipient de mélange génétique s'il est infecté par deux virus en leur permettant d'échanger leurs gènes. Vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches et d'études sur ce sujet. Je n'ai bien sûr pas de doctorat dans ce domaine. Je ne suis qu'un amateur dans l'étude du sujet. Mais d'après ce que j'ai lu, le nom de porc revient sans cesse dans le dossier. Et l'autre créature, dont le nom est souvent mentionné, c'est la chauve-souris. En Chine, la chauve-souris en fer à cheval. En Afrique, où le virus Ebola s'est déclaré à maintes reprises, il vient d'une chauve-souris frugivore. Mais quand on regarde ces graves contagions qui nous ont touchés ces dernières années, que ce soit le SRAS ou le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la grippe porcine ou même le COVID-19, on ne connaît pas encore absolument tous les faits. Même pour le Strauss, il y a encore des divergences d'opinion à ce sujet. Mais il est reconnu que les chauves-souris, les porcs, les civettes et les autres animaux que la Bible décrit comme impurs, impropres à la consommation humaine, font tous partie du tableau d'ensemble. Le virus Ebola va continuer à sévir parce que les chauves-souris frugivores sont apparemment, du moins selon ce qu'on sait pour le moment, le réservoir du virus Ebola. En passant, Ebola est le nom d'une rivière là-bas. Le virus Ebola est présent parce que les chauves-souris frugivores touchent et mangent des fruits, puis les primates, comme les singes, ainsi que ceux qui pourraient les ramasser sur le sol, les mangent et sont infectés. En Afrique comme en Chine, les gens mangent les deux, les chauves-souris et les singes. Ils s'en servent aussi dans la médecine traditionnelle. En Afrique, on mange les primates et en Chine, on mange les porcs, les civettes et autres animaux exotiques. Dans certains animaux, en particulier le porc, quand le virus s'associe à d'autres, il se transforme, il mute. Il peut ensuite être transféré d'homme à homme, une fois que le premier humain l'a reçu. Le syndrome respiratoire du Moyen-Orient existe toujours. Il existe. Mais d'où vient-il? Eh bien, on pense qu'il est apparu chez une chauve-souris qui l'a transféré à un chameau, un animal impur. Dans cette partie du monde, les gens mangent des chameaux et boivent même du lait de chameau. Et nous nous demandons d'où viennent ces choses. La fièvre de Marburg, je crois que ça se prononce comme ça, ça a commencé en Allemagne. Encore une fois, cela vient du chimpanzé. Mais je me doute que le porc soit aussi impliqué, parce que les Allemands mangent beaucoup de porc. Un petit déjeuner anglais traditionnel, se compose de deux ou trois sortes de bacon, de porc, de saucisses et de quelque chose appelé boudin noir. Je ne savais pas ce que c'était le boudin noir avant de déménager là-bas pour y travailler. Ça ressemble à une rondelle ou palet de hockey. C'est noir, un peu plus petit qu'une rondelle de hockey. On le met dans votre assiette. C'est du sang, souvent du sang de porc. Peu importe de quel animal il vient, c'est du sang. Et nous ne devons pas manger ces choses selon les Écritures. Les faits scientifiques prouvent qu'il y a une cause à ces pathogènes mortels. Que ce soit le SRAS, Ebola, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la grippe asiatique de 1957, la grippe de Hong Kong de 1968, la grippe porcine de 2009, ou même la pandémie grippe espagnole de 1918, le porc était impliqué. J'ai lu cela. Il est parfois difficile de trouver ces informations, mais c'était une grippe porcine, en fait. Un être humain ou un porc peut être porteur de ce virus particulier. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous sont en quelque sorte immunisés contre ce virus, car il s'est transmis au fil du temps et les gens sont devenus un peu immunisés contre lui. Il s'agit néanmoins d'une sorte de grippe porcine. Selon certaines sources, la grippe porcine peut affecter à la fois les porcs et les humains. Je cite, « C'est une maladie respiratoire qui résulte d'un virus de la grippe A. Le sous-type H1N1 de la variante de la grippe A est couramment à l'origine de la grippe porcine chez l'homme. Il a des caractéristiques génétiques similaires au sous-type H1N1 du virus de la grippe qui provoque la grippe chez les porcs. Les autres principaux sous-types connus pour être à l'origine de la grippe chez les porcs, sont les sous-types H1N2 et H3N2. Ces deux sous-types ont également affecté l'homme. En 2009, une variante du H1N1 s'est répandue pour la première fois chez l'homme. Depuis 2009, le H1N1 est devenu l'un des virus courants qui circulent à chaque saison de la grippe. Nous pensons que la grippe est quelque chose qui se répand en sa saison. Quand il commence à faire un peu plus frais à l'automne, nous disons que c'est la saison de la grippe. Pourquoi? En étudiant la question, on découvre que ces choses viennent de quelque part et que les scientifiques savent d'où elles viennent. C'est pourquoi, quand il y a un problème, ils sentent toujours leur recherche sur les marchés de la viande. Lorsqu'un nouveau virus apparaît, ils se tournent vers les marchés de viande et se demandent ce que mangent les gens. Ils ne cherchent pas du côté du blé, de l'orge, des légumes, non. Ils examinent les animaux que les gens mangent. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les animaux identifiés sont toujours dans la catégorie des animaux impurs, ceux que Dieu a dit de ne pas manger. Quand j'ai commencé à étudier la Bible et qu'on m'a fait remarquer qu'il ne fallait pas manger certains animaux, j'ai regardé le porc. Il y a beaucoup de gras sur les porcs. Ce n'est pas bon pour la santé. Je n'avais aucune idée à l'époque. Mais je pense que le monde commence à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui nous arrivera si on mange cet animal, mais aussi de ce qui arrivera à ceux qui les nettoient, les découpent, les manipulent tout le temps. Ces choses deviennent plus claires. C'est une menace pour l'humanité dans son ensemble, à cause de ce que nous faisons. Ça commence souvent par un oiseau de basse-cour qui transmet le virus à un porc, le porc à l'humain et l'humain à un autre humain. C'est ainsi que certaines de ces choses se produisent. Nous attendons avec impatience le monde de demain, l'établissement prochain du royaume de Dieu sur la terre. Quand cela arrivera et que les gens commenceront à changer leurs habitudes, ces problèmes vont disparaître. Ces situations malheureuses causées par de mauvais choix humains cesseront de se produire. Il est facile de pointer du doigt l'Asie à cause de ce qui s'y fait. Mais qu'en est-il de nous dans ce monde occidental? Qu'en est-il de nous en Europe, aux États-Unis, au Canada? Qu'en est-il de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de certains autres pays? Eh bien, vous savez, nous ne souffrons pas seulement à cause de cela, mais nous payons des pénalités énormes à cause de nos actions et de nos attitudes dans divers domaines. Par exemple, le mouvement LGBTQ+, le VIH-SIDA est devenu la première maladie politiquement correcte. Nous ne voulons pas montrer du doigt des gens. Nous ne voulons pas dire qu'un certain comportement en est la cause, parce qu'en parlant de comportement, cela implique donc automatiquement l'individu. Vous savez que beaucoup de ces gens ont besoin de nos prières. Ils ne comprennent pas. Plusieurs d'entre eux viennent de foyers dysfonctionnels. Nous ne devons pas haïr les gens, parce que nous sommes aussi des pécheurs. L'adultère et la fornication sont aussi des péchés. Mais tout ce mouvement LGBTQ apporte beaucoup de chagrin et de souffrance dans le monde. Il y a une loi abominable sur l'avortement à New York, une loi selon laquelle ils peuvent tuer un enfant dans le ventre de sa mère jusqu'au moment de la naissance. Quand elle a été adoptée, les gens ont applaudi et célébré. Le gouverneur de Virginie, médecin lui-même, a décrit comment il pouvait, quand un enfant a des malformations à la naissance, comment il pouvait discuter pour savoir s'il fallait sauver la vie de l'enfant, le laisser mourir ou le faire mourir. C'est stupéfiant de voir où notre monde en est rendu. Quand nous regardons nos propres péchés, nous n'avons pas le droit de pointer les autres du doigt. Nous avons le problème de la drogue, celui des idéologies de gauche sur nos campus. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a interdit la vente d'alcool et de tabac pendant cette crise actuelle. Intéressant. Intéressant parce qu'au Canada, les magasins et les installations de production de cannabis sont considérés comme services essentiels et doivent être maintenus ouverts. C'est vraiment important, n'est-ce pas? Ça, c'est important. C'est incroyable. Ce dirigeant païen d'Afrique du Sud fait preuve de plus de bon sens. Il se rend compte que ce n'est pas une bonne chose. Quand les gens ont trop de temps libre, de n'avoir rien d'autre à faire que de boire de l'alcool, cela risque de ne pas bien se passer, de donner de mauvais résultats en plus. Peut-être qu'il essaie d'améliorer la santé de son peuple en arrêtant les gens de fumer pendant ces 3 semaines. Cela pourrait être un grand avantage pour son pays. La proposition 47 a été adoptée en Californie. Le peuple a voté sur cette proposition. Ah! C'est merveilleux, Jeanne, en Californie. Écoutez, je viens de la Californie. Donc, je ne leur jette pas la pierre non plus. Je suis né à Sacramento. J'ai vécu là des années. J'ai fait mes études dans cette région. J'aime la Californie. Mais le reste du monde l'appelle le pays des cinglés. Nous avons tous entendu cela. Je l'ai entendu souvent quand j'ai grandi dans la région. Eh bien, la Californie a adopté le règlement 47. Stipulant que voler jusqu'à 950 $ de marchandises n'est qu'un délit mineur. Et voici maintenant ce qui se produit à cause de ça. Des gens vont dans les magasins, volent des choses, Il se sauve et personne ne fait rien parce que c'est un vol qui ne dépasse pas 950 $. Il suffit de prendre ce qui vous plaît. On peut y retourner le lendemain et faire la même chose encore et encore. Les entreprises et les gens s'inquiètent, comme la jeune femme dont il est question dans l'article que j'ai lu. Elle se trouvait dans un café terrasse, son ordinateur posé près d'elle. Quelqu'un s'en est emparé et s'est enfui. À quoi pensent les gens? Vous savez, certains supposent que laisser faire donnera plus de temps aux policiers pour faire autre chose. Mon père était sergent-chef dans l'armée. Il a dit quelque chose que d'autres disent aussi, comme les gardiens de prison, par exemple. Un responsable du camp d'été le disait aussi. Intervenez dans les petites choses et vous n'aurez pas à vous soucier des plus grandes. Si vous laissez passer les petites choses, vous aurez des choses plus graves sur les bras. Le maire Giuliani a ainsi réduit de plus de moitié le nombre de meurtres à New York. Ce nombre est passé de 2000 à 500 en mettant fin aux petites choses, comme on dit. Les successeurs du maire ont continué à faire baisser les taux des meurtres de la même façon. Vous savez, nos soi-disant dirigeants chrétiens ne respectent pas la loi de Dieu. Ils nous disent que nous n'avons pas besoin de respecter la loi de l'Ancien Testament et que nous pouvons manger du porc. Ils prennent leur petit déjeuner de crêpes au jambon. Ils tiennent à manger leur jambon de Pâques et leur jambon de Noël. Ces gens devraient mieux comprendre ces choses et plusieurs choses également. Ils devraient connaître mieux que ça. Nos soi-disant dirigeants chrétiens ignorent la loi de Dieu. Et notre peuple aime qu'il en soit ainsi. Notez Ésaïe 30. Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît. Ce n'est pas seulement les dirigeants religieux, mais le peuple aussi. Verset 8. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une tablette et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans le temps à venir, éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, c'est-à-dire aux ministres, « Ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Dites-nous ce que nous voulons entendre. Dites-nous que nous pouvons manger tout ce que nous voulons. Dites-nous que nous pouvons nous conduire comme nous le voulons. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Notez maintenant Jérémie, le 5e chapitre. Jérémie, chapitre 5 et le verset 30. Il est dit ceci. Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Jérémie 5, verset 30. Verset 31 maintenant. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Oui, nous aimons qu'il en soit ainsi. Nous ne voulons pas dire que quelque chose est péché. Nous ne voulons pas dire qu'une habitude ou un comportement est mauvais. Disons simplement à tout le monde que nous les aimons. C'est une question d'amour. Nous les aimons et nous les laissons faire ce qu'ils veulent, suivre leur chemin. Mais comme il est dit ici, que ferez-vous à la fin? Nous souffrons. Ce coronavirus n'est qu'un symptôme du péché et il nous rappelle qu'il y a une conséquence au péché. Ce n'est qu'un péché parmi tant d'autres. Il y a des péchés bien plus graves. Franchement, les gens qui ont grandi dans cette partie du monde ont mangé comme ça. C'est comme ça. Comme partout où vous êtes dans ce pays ou dans n'importe quel pays, qu'est-ce qu'on fait? On suit simplement ce qui nous a été montré. On ne sait pas. Ce monde ne comprend pas. C'est le monde de Satan. Il est le Dieu de ce monde. Vérifiez ces choses. Lisez le livre de Jean. Le petit Dieu de ce monde, c'est Satan. Dieu le Père et Jésus-Christ ont plein pouvoir sur tout, mais ils permettent aux démons d'être ici et d'être en action. Et nous suivons simplement leur influence. Ils nous influencent de différentes manières. Même dans l'Église. 2 Timothée, chapitre 4. Il ne s'agit pas seulement des gens du monde, mais aussi de ceux de l'Église. 2 Timothée 4, à partir du verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, C'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici à Timothée, le jeune évangéliste. Il parle de Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les fables. Dites-nous simplement ce que nous voulons entendre. Ne nous dites pas que nous faisons quelque chose de mal, parce que nous aimons faire ce que nous faisons. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Dans Proverbe 21, nous allons lire le verset 2, il est dit ceci. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Vous savez, chaque voie que les hommes choisissent est bonne à leurs yeux. Jérémie 2, verset 19. C'était dans le commentaire d'ouverture du Dr. Winnell aujourd'hui. Jérémie 2, verset 19, il est dit ceci. Ta méchanceté te châtiera. Si vous voulez adopter des comportements sexuels que Dieu interdit, vous allez souffrir de maladies transmises sexuellement et pire encore, vous aurez le cœur brisé et vous subirez tous les autres problèmes qui en découlent. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère. Oui, la pilule que nous devons avaler pour nos mauvaises actions est une chose mauvaise et amère. C'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Non, nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous voulons faire les choses à notre façon. C'est ce que l'humanité fait en général. Considérez la vue d'ensemble de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. En Australie, il y a eu des sécheresses incroyables, des incendies et des inondations. Il n'y a pas si longtemps, les inondations ont tué jusqu'à 600 000 têtes de bétail. Puis, les incendies sont arrivés et ont tué, je ne sais pas au juste combien d'animaux, je pense que personne ne le sait précisément, mais on dit qu'un milliard d'animaux sauvages ont péri dans les incendies. Puis, le Brexit est arrivé. Et que vous soyez pour ou contre, ce qu'il a fait, ça a plongé l'Europe dans le chaos. Que se passe-t-il au moment où le Brexit et le chaos arrivent ensemble? Le coronavirus frappe et impose d'énormes contraintes financières à ces pays. L'Europe commence à se disloquer et à se déchirer. Toute l'Union européenne pourrait se désagréger. Nous savons qu'à la fin, il y aura 10 nations ou 10 rois qui donneront leur pouvoir à un seul. Nous ne voyons pas encore cette configuration finale. Mais quel rôle les événements actuels peuvent-ils jouer pour permettre que finalement cela se réalise? Le SRAS, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, l'Ebola, la grippe porcine, le COVID-19, le monde ne peut-il pas faire le lien entre ces différents événements? Les criquets qui affligent l'Afrique et le Moyen-Orient, les bouleversements géopolitiques, les guerres au Moyen-Orient, en Amérique centrale et du Sud, les gens qui sont mécontents, qui se soulèvent contre le gouvernement. En Afrique du Sud, la cote de crédit du pays a été réduite à presque rien. Le monde souffre. Partout dans le monde, il y a des souffrances effroyables. Alors que le monde sombre dans le chaos, nous voyons apparaître des hommes forts, des dirigeants puissants. Ce ne sont pas nécessairement de bons dirigeants, mais des leaders forts. Des gens qui sont prêts à prendre des décisions solides, contraires même à ce que les autres pensent. Il y a Xi Jinping, Vladimir Poutine, il y a Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Recep Erdogan en Turquie. Ce sont des leaders forts. Des articles entiers ont été écrits à leur sujet. La montée d'hommes forts. Lorsque des hommes forts s'élèvent, deux choses peuvent se produire. Ils peuvent soit résoudre le problème, soit créer un problème plus grand encore. Ils commencent généralement par résoudre certains problèmes, mais finissent par devenir des Hitler, des Mussolini ou autres. Sommes-nous incapables de voir le lien qui existe entre nos comportements et ce qui se passe dans notre monde? La question a été soulevée. Comment devons-nous prier pendant cette crise? Encore une fois, je veux me référer au commentaire du Dr. Douglas Winnell, paru dans le bulletin d'information et intitulé « Conditions pour obtenir la miséricorde », paru dans le bulletin d'information. Certains d'entre vous ont ce texte en main. Je pense que nous devons réfléchir à ces choses. Dieu est un Dieu miséricordieux. Et il nous donne le temps de changer et de nous repentir. Il nous donne des avertissements et des mises en garde. Mais le temps de rendre des comptes finit par arriver. Le chapitre 9 du livre de Daniel donne une indication sur la bonne façon de prier. Daniel jeûnait à ce moment-là. Notez Daniel 9, verset 3. Daniel 9, verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Notez qu'il s'agissait d'une confession, reconnaître les fautes. « Seigneur, Dieu grand et redoutable, il exaltait Dieu pour ce qu'il est vraiment, le créateur de tout ce qui existe, de tout l'univers, le Dieu grand et redoutable. À toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Notez qu'il garde son alliance avec miséricorde envers ceux qui l'aiment, ceux qui observent ses commandements. » Remarquez que cela est nécessaire, il faut garder ses commandements. « Nous avons péché. » Ainsi, même si nous observons ses commandements, lequel d'entre nous peut dire qu'il est sans péché, comme l'a dit Jésus, qu'il jette la première pierre? Verset 5. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Il parle de gens ici qui gardaient ses commandements, mais qui ont péché, qui ont agi mauvaisement, qui se sont rebellés. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tout le peuple du pays. Nous n'avons pas tenu compte de ces avertissements qui venaient des prophètes, tout comme nos nations ne tiennent pas compte des avertissements lancés par cette organisation particulière qu'est l'Église du Dieu vivant et par le monde de demain. Nous ne sommes pas les seuls, mais si nous considérons qui fait vraiment le travail en disant les vraies choses, eh bien, nous sommes les seuls à le faire. Nous ne connaissons pas la suite des choses pour les autres. C'est à chacun de décider ce qu'il va faire. Malheureusement, vous savez, les gens ne tiennent pas compte de ces avertissements. Nous avons des jeunes qui ont grandi dans l'Église. Leurs parents leur ont enseigné un certain mode de vie et ils assistent aux réunions. Mais quand ils deviennent autonomes, certains quittent et font leurs propres affaires. Quand ils auront suffisamment souffert, nous espérons qu'ils reviendront. Nous espérons leur retour. Il faut parfois qu'ils soient gravement atteints avant de revenir. Verset 6, il est écrit, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. » Lisez le reste de ce chapitre. C'est le 9e chapitre du livre de Daniel, où Daniel supplie Dieu en jeûnant. Vous savez, certains d'entre nous sont devenus complaisants. Nous pensons que les choses vont toujours continuer comme si rien n'était. Mais cette crise montre à quelle vitesse notre monde peut changer. Noé a construit une arche pendant longtemps. Il était aussi un prédicateur de la justice. Il avertissait le peuple. Un jour, il est monté à bord de l'arche. Les portes ont été fermées et les gens ont commencé à se ruer vers des endroits plus élevés. Ce jour s'en vient. Il ne sera pas sans cesse remis à plus tard. Comme je vous l'ai dit, la deuxième raison de ce jeûne d'aujourd'hui est la crise actuelle de COVID. Nous espérons et prions tous pour que cette pandémie soit de courte durée et que nous et nos proches vivions longtemps. C'est normal. Mais nous devons avoir la vue d'ensemble, comprendre que cette pandémie et les autres calamités qui se produisent dans notre monde aujourd'hui résultent de la rébellion de l'humanité contre son Créateur. Elle a peut-être commencé en Chine, mais nous avons un rôle à jouer dans cela par nos actions et par nos décisions, celles de nos gouvernements et tous les choix que nous faisons. Oui, nous devrions supplier Dieu d'épargner nos frères et d'être miséricordieux envers les autres êtres humains qui ne comprennent pas la véritable cause de nos problèmes actuels. Nous devons également prier pour nos dirigeants, tant au niveau national qu'au niveau de l'Église elle-même. Prenez le temps de lire 1 Timothée chapitre 2, 1 à 4. Nous devons prier pour tous les hommes, prier pour les rois et les dirigeants, afin qu'ils aient le courage et qu'ils prennent de sages décisions. Dieu nous dit de le faire, et nous devons prier pour que Dieu ouvre des portes afin que nous puissions atteindre ce monde troublé par un message de repentance. Nous devons reconnaître nos péchés, voir les résultats et apporter l'espoir du royaume de Dieu à venir à ceux qui sont prêts à changer. Il est temps de se réveiller et de cesser de croire que tout se passera normalement. Notre monde ne sera pas le même après cela, si l'on considère la rapidité avec laquelle il a changé. Non, ce n'est pas encore la fin, bien sûr, nous le comprenons. Mais nous sommes peut-être au début d'une période menaçante qui nous mènera à la fin. Examinons-nous, humilions-nous et préparons-nous à la Pâque. Profitons de ce jour de jeûne pour nous examiner et nous demander « De quoi ai-je besoin de me repentir? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? » Et prions pour que Dieu ouvre des portes pour avertir ce monde de ce qui doit arriver et pour donner de l'espoir à un monde qui se meurt.